maintenant nous allons voir si la... Enfin, je ne sais pas si on va revenir sur la cohérence de feu le système communiste avec Attila Schoch. Attila, vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'économie de l'Académie des sciences de Hongrie. Vous avez été député dans votre pays pendant 7 ans. Vous avez aussi eu des fonctions ministérielles. Et puis, vous avez eu des activités académiques à l'université. Et puis également des activités dans des organisations internationales, notamment à la Baird, où vous avez passé 3 ans et vous avez évidemment participé aux travaux qui ont préparé les différentes vagues de réformes économiques en Hongrie. Et donc évidemment, ce sera un éclairage différent et complémentaire de celui de Georges. Vous avez la parole pour aussi un quart d'heure.
Alors, merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne la conséquence et consistance du socialisme, du système socialiste, je suis complètement convaincu que c'était vrai pendant la période stalinienne, mais plus tard, heureusement, pas tellement. Mais d'autre part, je suis d'accord avec Monsieur Georges Braga de Macedo, que vraiment il y a des problèmes de complémentarité et de consistance dans les réformes. Et je vais un peu utiliser les indicateurs de la Baird pour vous démontrer qu'est-ce qu'on fait en transition, qu'est-ce qu'on faisait en transition vers le capitalisme. Donc, selon les indicateurs de transition de la Baird, on distingue 9 domaines principaux de la transition. Et j'ai mis à gauche les choses plus simples, c'est la libéralisation, plutôt, et privatisation, et des choses comme ça, ou la petite privatisation. Et j'ai mis à droite, avec rouge, les choses plus compliquées. Alors, vous pouvez voir que c'est déjà plutôt un consensus de Washington réformé ou modifié, parce que consensus de Washington, c'est stabilisation, libéralisation, privatisation. Et ici, il y a beaucoup de discours déjà des nouvelles institutions, c'est-à-dire nouvelles organisations et règles de comportement, qu'il est beaucoup plus difficile de faire. Et alors, vous allez voir juste maintenant que les différences entre les bons élèves, la Hongrie, c'est un bon élève, et la Russie était un moins bon élève. Les différences sont reflétées dans les choses plus faciles. Dans les choses plus difficiles. Les choses plus faciles, libéralisation des prix, petite privatisation, il n'y a pas vraiment de différence entre la Hongrie et la Russie. Mais si vous regardez la réforme du système financier non bancaire, par exemple, alors là, la différence sont très significatives. Petite chose sur l'économie politique des réformes. Si vous comparez ici l'Estonie, la Hongrie, la Russie et l'Ouzbékistan, alors qu'est-ce qu'on va voir comme intéressant? C'est voilà que l'Estonie, la performance moyenne en termes des indicateurs de transition de la Baird, la performance de l'Estonie est sur le niveau de la Hongrie, malgré que l'Estonie était dans la même Union soviétique que la Russie, peut-être pas pendant si longtemps, mais dans un système très très socialiste et très très problématique. Mais l'Estonie était très déterminé. L'Estonie était très déterminée, une détermination absolue de quitter ce lieu-là. Et donc, ils ont été très radicaux dans leur réforme. Donc, ça a une certaine importance. Si un pays voulait très fort se libérer, se défaire de ce système-là. Maintenant, on peut faire même une comparaison avec la France. Mais alors là, déjà, il faut utiliser le rangement du doing business de la Banque mondiale, ou pire. Et alors là, vous voyez que l'Estonie dépasse la France dans, en ce qui concerne la facilité de faire des affaires. Et la Slovaquie est moins bonne. Hongrie, Pologne, 60. En fait, il y a une petite différence entre les deux. Et Russie, 80, 96. Donc, vous voyez qu'il n'y a, il n'y a plus un rangement où les pays anciens capitalistes performent mieux que, les, que ces pays de transition. Et même, on peut ajouter qu'il n'y a, il n'y a pas un tel domaine, donc il n'y a pas un, un système que des pays, quelques pays, que dans quelques aspects, les pays de, d'ancienne transition sont pires que les pays capitalistes. Non, c'est très différencié. Comme vous voyez, Estonie, qui est une performante exceptionnelle, et dont les rigidités de l'emploi est pire que tous les autres pays que je viens de montrer, n'est-ce pas? Enfin, la France aussi est une mauvaise performante dans cet aspect, nul n'est pas surpris. Protection des investisseurs, alors là, vous voyez, c'est déjà assez différent. Et donc, on peut vraiment dire que la transition est plus ou moins finie. Il n'y a plus une différence systémique entre les pays de transition et les pays occidentaux du point de vue systémique et économique. Il n'y a plus de telle différence. Et on est arrivé au capitalisme, et on a la grande difficulté que l'Europe et la France particulièrement a, c'est l'exclusion d'une importante part de la population de l'activité économique, ou de l'activité économique légale au moins. Donc vous voyez que l'Union européenne, les 15 pays, ils ont une activité économique de la population entre 15 et 64 ans. Vous avez une activité économique 71%. Mais déjà, si on ajoute les 12 nouveaux membres, ça diminue à 70%. Les 12 nouveaux membres, c'est faible. Et alors, vous pouvez voir la Hongrie, qui est vraiment, je pourrais dire, un niveau d'activité économique catastrophique. Donc, je ne parle pas vraiment de chômage ou pas chômage. Je pense que c'est plus important, l'activité économique est évidemment plus important que le chômage. Alors, maintenant, la réforme. Donc, vous comprenez bien qu'on est dans une fatigue de réforme après tant de réformes, certainement. Et il faudrait encore faire des réformes, comme en France, n'est-ce pas? En France aussi. Il y avait des réformes jusqu'à Maastricht et un peu de fatigue de réformes. Alors, maintenant, je voudrais me limiter déjà seulement à la Hongrie. Et ce que je dis, c'est plus ou moins valable aux autres pays, mais je me limiterai à la Hongrie. Donc, il faudrait faire de grands efforts dans le domaine de l'éducation et de la flexibilité du travail, flexibilité de l'économie pour plus de nouvelles entreprises, entreprises petites et moyennes entreprises, diminuer les impôts, diminuer les contributions à la sécurité sociale. Ce seraient les tâches à long terme. Ce serait qu'il faudrait faire pour assurer un futur. Alors, malheureusement, on ne voit pas vraiment de gouvernement qui ferait ou qui voudrait faire effectivement de telles choses. Ce qu'on voit, c'est une distribution sans limite avant les élections et austérité après. Donc, ce sont des cycles politiques. Et il faut bien comprendre que en Hongrie, tous les partis sont des sociaux-démocrates. Maintenant, sans entrer dans le détail, et combien sociaux-démocrates. Mais pour vous dire l'exemple important, aux élections dernières, la grande promesse de la droite était de doubler le salaire minimal. C'était la droite nationaliste, chrétienne, droite dans tous les aspects, sauf dans l'économie, et d'introduire le 14e mois de retraite. Alors, qu'est-ce que la gauche faisait? Alors, la gauche est un peu moins gauche. La différence n'est pas trop grande. La droite promettait de distribuer à peu près 25% du PIB, plus, pour donner 25% du PIB dans la majorité des dépenses publiques, aussi un peu de diminution des impôts. La gauche promettait seulement 20%. La somme disponible était moins 10%. Donc, c'est là. Et il faut aussi comprendre qu'en Hongrie, la vie politique est limitée, aux partis pratiquement et aux élections. Donc, les syndicats. Outre les fonctions publiques sont insignifiantes ou non existantes, la société civile est très faible et il n'y a pas de journaux indépendants, d'experts indépendants, nul n'est considéré indépendant de quelque parti. Donc les élections sont limitées. La politique est limitée sur les élections et depuis septembre dernier, les émeutes sont encore un peu ajoutées, comme vous pouvez voir dans la télévision. Il faut aussi bien comprendre que la partie intelligente du public a des options politiques très fermes. Quelqu'un qui a fini l'université et est intelligent va voter pour les socialistes ou pour la droite, même si ce parti-là lui diminue le revenu ou n'importe quoi. Donc la partie intelligente du public ne peut pas être influencée dans leur choix politique. Et c'est ceux qui ont perdu leur travail après le communisme, les gens pauvres, qui décident les élections. C'est eux qui décident les élections. Donc, on leur fait des promesses et on leur distribue avant les élections tout ce qu'on peut. C'est la gratuité, les subventions de la consommation, enseignement gratuit, services médicaux gratuits, subvention du gaz, subvention de l'électricité, augmentation de l'emploi public. Donc ce sont les comportements avant élection. C'est un peu la nostalgie du bien-être du cadarisme, de communisme, de goulash. Et puis, après les élections, viennent l'austérité, réduction des salaires réels au secteur public, réduction discriminative d'une part des pensions, des mesures d'austérité qui ne sont pas soutenables. Donc la montée suivante peut déjà être, oui. Donc la montée suivante des dépenses publiques peut déjà être prévue et tout va recommencer. Et donc les réformes qui seraient nécessaires pour supprimer l'exclusion d'une partie importante de la population du monde du travail. Ces réformes-là ne reçoivent pas d'attention suffisante. Et donc, la solution de ce problème-là n'est pas vraiment visible. Il faut encore ajouter que dans cette part de la population qui est exclue du monde du travail, il y a certainement les pré-retraités, mais il y a aussi une part importante de la population qui n'a pas la formation, l'éducation nécessaire. Et donc, une part importante de ce qu'il faudrait faire, ça serait le développement de l'éducation en général et en outre des mesures encore libérales, ou comme on dit péjorativement, néolibérales. Donc des mesures libérales pour augmenter les activités entrepreneuriales. Merci, c'est ça que je